du Mali.
Studio Damani, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani, bienvenue à tous. Multiplication des attaques cette semaine au nord du pays. Un convoi militaire a sauté hier sur une mine entre Douanza et Bamara Maoudé, faisant 3 morts et 5 blessés. Face à la recrudescence des attaques contre ses positions, la MINUSMA a renforcé ses positions et demande un soutien matériel aux pays contributeurs afin de combler le vide qui sera bientôt occasionné par le retrait des hélicoptères des Pays-Bas. Permettre au Mali d'avoir une électrification durable à travers une énergie moins coûteuse et plus efficace, c'est l'objectif d'une rencontre organisée ce matin à Bamako par le Centre international de formation en énergie et développement durable. À Mopti, 115 écoles sur 665 n'ont pas pu ouvrir leurs portes suite à la reprise des cours en début de semaine. Selon le directeur de l'Académie de la région, ces écoles sont toujours fermées à cause de l'insécurité persistante dans la zone. Présentation de cette édition à Setou Kanté. Bonsoir à tous. Multiplication des attaques cette semaine au nord du pays. Hier encore, un convoi militaire a sauté sur une mine entre Douanza et Bamara Maoudé. 3 soldats ont perdu la vie et 5 autres blessés avec ces nouvelles victimes. Le bilan de cette semaine s'est alourdi. On compte 8 morts et plusieurs blessés. Le point avec Idrissa Sako.
Un véhicule d'escorte des forces armées maliennes a sauté hier sur une mine entre Douanza et Bamara Maoudé au nord du pays. Bilan 3 morts et 5 autres grièvement blessés. Selon des sources locales, la mine serait probablement téléguidée de loin par un terroriste. Au même moment, à Ber, localité située à 45 km de Tombouctou, des obus ont été lancés hier en direction du camp de la MINUSMA. Selon la mission onusienne, les obus sont tombés à environ 100 mètres du camp et n'ont fait aucun dégât. La MINUSMA a aussitôt déployé une couverture aérienne dans la zone. Ces nouvelles attaques ramènent le bilan de cette semaine à 8 morts, dont 4 militaires maliens, 2 casques bleus et 2 civils. Suite à cette montée de l'insécurité dans le nord du pays, la MINUSMA a renforcé ses mesures sécuritaires dans la zone. Cependant, ces attaques interviennent au moment où les Pays-Bas annoncent le retrait de leurs 7 hélicoptères engagés dans les opérations de la MINUSMA en début 2017.
Face à la récurrence des attaques contre ses positions, la MINUSMA a renforcé les mesures sécuritaires au nord du pays. Toutefois, la mission demande un soutien matériel aux pays contributeurs afin de combler le vide qui sera bientôt occasionné par le retrait des hélicoptères des Pays-Bas. L'annonce a été faite ce matin lors d'un point de presse tenu à Bamako. Radia Achouri, porte-parole de la MINUSMA au micro d'Ibrahima Hach Diallo.
Nous avons renforcé notre équipement anti-mine. Nous avons renforcé toutes les formations que nous donnons au personnel militaire et autres en termes de prévention, justement, et comment gérer la question des mines, etc. Nous essayons de collecter toute l'information possible, imaginable, que nous pouvons avoir à notre disposition sur la présence des mines, etc., etc. Mais, comme tout le monde peut le concevoir, les attaques, ce qu'on appelle les attaques asymétriques, sont très difficiles à contrer.
Qu'est-ce qui motive la Hollande à demander le retrait de ses hélicoptères?
Il n'y a pas de motivation spécifique. La Hollande a été d'une contribution extrêmement de valeur pour la MINUSMA. Ils ont contribué en personnel spécialisé, ils ont contribué également en termes de matériel comme les hélicoptères, etc. Et nous souhaitons que l'exemple hollandais soit suivi par d'autres pays pour remplacer cet équipement qui a été fourni par la Hollande.
Autre attaque, cette fois-ci au sud du pays. Un véhicule de transport a été attaqué hier à 4h du matin par des bandits armés sur la route Sikasso-Eremakono vers la frontière Mali-Burkina Faso. De source locale, les passagers à bord ont été séquestrés et dépouillés de leurs biens. Environ 10 millions de francs CFA ont été importés. Les braqueurs qui n'ont pas été identifiés sont en fuite. Faites vos réactions et commentaires à ces informations sur la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Dans la région de Mopti, 115 écoles sur 665 n'ont pas pu ouvrir leurs portes suite à la reprise des cours lundi dernier. Selon le directeur de l'Académie de la région, ces écoles sont toujours fermées à cause de l'insécurité persistante et des attaques menées par le groupe terroriste dans la zone. Le cercle de Tenyunku est la zone la plus touchée avec plus de 80% d'établissements fermés. Amadou Dekini, directeur de l'Académie de Mopti, est au micro de nos confrères de RFI.
Ceux qui ont pris les armes, les djihadistes, ils ont menacé les directeurs d'école, leur interdisant d'ouvrir les écoles. Et également, nous avons des conseillers pédagogiques qui ont été assassinés. Tenyunku, qui est au cœur même du détail intérieur, a pu ouvrir parce que les forces de l'ordre sont présentes à Tenyunku. Sinon, ailleurs, dans les autres communes, sur les 11, les écoles ne sont fonctionnelles que dans 3. Il n'y a pas de force de l'ordre là-bas. Les autorités, les collectivités, souvent, ne sont pas non plus présentes. Donc, les enseignants, craignant pour leur vie, se sont repliés vers les capitales de cercle.
Un projet sur le renforcement de sécurité humaine a été lancé ce matin à Bamako. L'objectif est de créer une approche communautaire pour mieux sécuriser la population. Ce projet est financé par l'Agence nationale suédoise du développement international en partenariat avec la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères. Le programme va couvrir toutes les régions du Mali, excepté Taoudéni, sur une durée de 3 ans. Dr Mariam Dibrila Meiga est la directrice exécutive de la Coalition nationale de la société civile pour la paix et la lutte contre la prolifération des armes légères. Elle est au micro de Omar Oegalo.
Un des objectifs de ce projet, c'est vraiment de conscientiser les populations, les organisations de la société civile dans la problématique de la sécurité et de la sûreté au niveau des populations. Ce projet est un projet communautaire. On a développé une approche communautaire pour aller de la commune, des communautés de la base au sommet, pour que vraiment les réalités des questions de sécurité, ce que subissent les populations, soient connues et pris en compte par rapport à leurs préoccupations.
Ce projet va durer pendant combien d'années?
C'est un projet de 3 ans qui couvre 35 communes dans les 9 régions du Mali sur 10.
Comme annoncé dans le titre, permettre au Mali d'avoir une électrification durable à travers une énergie moins coûteuse, plus efficace. C'est l'objectif d'une rencontre organisée ce matin à Bamako par le Centre international de formation en énergie et développement durable. Le thème de ce séminaire est comment les réseaux électriques intelligents participent au développement socio-économique et à l'électrification durable au Mali. Zena Traoré, directrice du Centre international de formation en énergie et développement durable, fait le pont de ce projet au micro de Mahaman Babakunta.
La rencontre, c'est pour débattre des smart grids, les réseaux intelligents, et leur impact sur tout ce qui est développement socio-économique et électrification durable au Mali. L'Afrique étant très concernée par tout ce qui est développement énergétique, étant donné que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour électrifier nos pays, nos villes et nos villages, c'est un sujet qui est d'actualité et qui concerne énormément ce continent-là. Ça va permettre en fait au Mali d'adopter les bonnes pratiques nécessaires pour une électrification intelligente de nos villes et de nos villages, donc permettre à nos petits villages de se développer économiquement, permettre aussi à la ville de Bamako potentiellement de se développer économiquement en misant sur une énergie qui est à la fois moins coûteuse et plus efficace que ce que nous utilisons aujourd'hui.
Sur un tout autre sujet, la problématique des aides ménagères était au centre d'une rencontre ce matin à Bamako. La session vise à prendre un engagement collectif et individuel pour faciliter l'exécution du projet réponse à la problématique des aides familiales. Selon les organisateurs, on enregistre chaque année 320 aides ménagères en détresse et 150 enfants qu'elles abandonnent. L'atelier a été organisé par l'association d'aide aux aides familiales. Moussa Léo Tienta est le président de cette association. Il est au micro d'Imirana Kilumaïga.
Au Mali, 320 aides familiales tombent en situation de détresse chaque année. 125 liens familiaux entre les aides familiales et leurs familles sont coupées chaque année. Plus de 150 infanticides, abandons et abandons d'enfants sont perpétrés par les aides familiales. Des centaines d'enfants d'aides familiales dont la paternité n'est pas connue. Bref, la liste est longue. Attirée par le désir d'émancipation et une profonde croyance d'avenir en la ville, elle débarque en grande ville avec une complexe d'infériorité ayant un seul objectif, accumuler de l'argent. Réduire les taux de mobilité des aides familiales vers les zones aurifères et minières et minimiser les risques et conséquences. Contribuer à une prise de conscience de l'intérêt et de la nécessité de l'éducation auprès des aides familiales en vue d'effacer les niveaux d'alphabétisme. Telles sont les problématiques que le présent projet entend résoudre.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Écho des régions, les agents de santé communautaire du district sanitaire de Banaba ont reçu hier 3 mois d'arriéré de salaire financé par l'ONG PC Mali. Ce geste vise à les encourager dans leur travail de lutte contre le paludisme dans la localité. La ville de Yorosso est confrontée depuis quelques jours à une pénurie d'eau potable. Les adductions d'eau ne fonctionnent plus normalement et la population est obligée de s'approvisionner dans les puits locaux. Lancement hier d'un projet de lutte contre la violence basée sur le genre dans la région de Gao, une initiative de l'ONG Debo Alafia appuyée par les Pays-Bas. Ce programme va durer 4 ans. Dans un instant, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Cédou Fomba.
Bonsoir.
Vous allez aborder quel sujet ce soir?
À cette occasion, au menu du grand dialogue de ce jeudi, la problématique de l'habitat. C'est à la faveur de la journée mondiale de l'habitat célébrée le 3 octobre dernier. Comment la question de l'habitat est gérée aujourd'hui au Mali? Les textes en vigueur sont-ils adaptés aux réalités du pays? Pourquoi le domaine du foncier est confronté à tant de problèmes? Que faire pour que soient correctement appliquées les normes en la matière? C'est autour de ces questions et bien d'autres que va se dérouler le débat de ce soir avec comme invité Mohamed Lamine Sidibé, le directeur national de l'urbanisme, Massa Kone de l'UACCD et Ibrahim Kunta de l'Ordre des urbanistes.
Merci et très bon débat. On se retrouve juste après pour le magazine.
Studio Tamani.